France Culture.
Et c'est reparti pour les midis de culture. Tout à l'heure à 13h, je recevrai l'interprète musicienne Souad Massi pour son nouvel album. Mais tout de suite, place au point culture de Sophie Catherine Gallet. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors que les Oscars auront lieu ce dimanche, retour sur les débuts méconnus de Billy Wilder, cinéaste autrichien ayant fait carrière à Hollywood dès la fin des années 30. Réalisateur au succès bien connu comme Certains Lames Chauds ou encore Boulevard du Crépuscule, quels ont été ses débuts et quelles traces de l'Europe trouve-t-on dans son cinéma hollywoodien? C'est notre dossier du Point Culture du jour. Marc Serisuelo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de Billy Wilder, un Européen à Hollywood. Alors dans cet essai, vous revenez en particulier sur une période de la vie de Wilder peu connue et surtout en France, les débuts à Vienne puis à Berlin comme journaliste puis scénariste, mais aussi sur ses premières découvertes cinématographiques comme le cinéma d'Eric von Stroheim. Alors est-ce que c'est la rencontre avec ses œuvres qui, selon vous, a initié un goût pour, son goût pour un humour grinçant et parfois même, on peut le dire, assez noir?
Alors, en ce qui concerne Stroheim, ça a surtout initié un goût pour le réalisme qui est essentiel pour lui et effectivement une certaine férocité. L'autre grand modèle pour Billy Wilder, c'est Ernst Lubitsch. Et donc, il y a deux modèles, Lubitsch pour la comédie et Stroheim pour le réalisme. Mais en effet, c'est à Vienne qu'il a effectivement rencontré, enfin, il a couvert la première des rapaces, il a été très impressionné par Stroheim, mais il en a parlé dans un journal viennois.
À Berlin, Billy Wilder initie sa carrière de scénariste, notamment avec le film Les Hommes le Dimanche de Robert Siodmak. C'est un film étonnant entre documentaire et fiction, dont vous dites qu'il pourrait être l'ancêtre du néo-réalisme. Et des années plus tard, en 1945, Wilder filmera de nouveau Berlin, mais aussi les camps de concentration dans son film documentaire Death Mills. Est-ce qu'il y a pour vous toujours un sous-texte réaliste, une attention documentaire dans les films de Wilder, y compris dans ses comédies?
Oui, tout à fait. C'est ce qui fait la spécificité de Wilder au sein de la comédie américaine. Il parvient à être un auteur de comédie charmante et sophistiquée. Et en même temps, il y a effectivement cet arrière-plan du réel. Les Hommes le Dimanche, c'est un film tout à fait étonnant, en effet, où on va retrouver, en fait, à Hollywood, la plupart des collaborateurs du film, c'est-à-dire Fred Zinman, Robert Siodmak, Kurt Siodmak. Enfin, c'est très intéressant de le voir aussi comme cela. Et puis sinon, c'est une journée de plaisir et de détente, mais également il va y avoir le retour au travail le lendemain, le lundi, et Les Hommes le Dimanche, c'est d'ailleurs un titre qui oublie la moitié du ciel, hein, c'est-à-dire que c'est mention, c'est-à-dire les hommes et aussi les femmes. En ce qui concerne son travail dans le réalisme, on le retrouve ensuite à Hollywood, en effet, avec un partage très clair entre le drame et la comédie, et à l'intérieur de la comédie, des comédies plus ou moins réaliste.
Et est-ce qu'on peut imaginer que c'est son passage aussi par le journalisme qui l'a préparé à observer les comportements humains ?
Oui, absolument. Ça, c'est absolument fondamental. Voilà pourquoi j'en parle assez longuement, en fait, dans mon ouvrage. Après le lycée, il aurait dû s'inscrire à la fac de droit. S'il l'avait fait, il aurait été d'ailleurs le copain de classe d'Otto Preminger, qui, lui, a été docteur en droit. Mais il a préféré travailler tout de suite dans le journalisme, donc à 19, 20 ans, hein, vraiment très, très jeune. Et lorsqu'il passe de Vienne à Berlin, aux alentours de 1927-28, il a du mal à prendre pied dans la grande ville, puisque Berlin a remplacé Vienne comme grande capitale du monde germanophone. On n'est plus dans la Vienne de Schnitzler, de Mahler. C'est autre chose, de Klimt. C'est autre chose. Désormais, c'est à Berlin que ça se passe, et notamment dans le cinéma. Mais c'est dur pour ce jeune homme. Et il devient danseur mondain, gigolo en quelque manière, et il écrit cette expérience dans un magnifique texte qui lui est inédit en français, dont je propose quelques extraits dans l'ouvrage, et qui est vraiment tout à fait extraordinaire, où on voit ce réalisme très cru, cette question de la prostitution qui va revenir très souvent dans sa filmographie. Il y a beaucoup de prostituées, non seulement des femmes comme Kim Novak dans Kiss Me Stupid ou Irma la Douce, évidemment, donc avec Shirley MacLaine, mais également du côté masculin, donc avec par exemple le le rôle de William Holden dans Sunset Boulevard, où il est lui-même le gigolo d'une vieille actrice oubliée.
Mmh. Alors avec votre essai, on comprend aussi la grande complexité de Billy Wilder, constamment dans l'entre-deux, entre l'allemand et l'anglais, entre la comédie et le drame, entre le scénariste et le réalisateur, et enfin surtout peut-être, comme l'indique le titre de votre ouvrage, entre l'Europe et les États-Unis. Alors comment cette tension géographique se construit dans son cinéma? Qu'est-ce qu'on trouve de l'Europe dans ces films pour vous?
Alors, nous avons évoqué tout à l'heure la question des camps de concentration, enfin, des camps d'extermination plus précisément, et Billy Wilder est au cœur effectivement de tout cela, c'est-à-dire qu'il est non seulement un exilé à cause d'Hitler, à cause du nazisme, c'est un juif autrichien qui donc fuit très très tôt, hein, donc dès 1933, l'Allemagne nazie, Berlin, et c'est quelqu'un qui donc va trouver d'abord une sorte de structure d'accueil européenne à Hollywood autour de Lubitsch. Il ne parle pas anglais alors qu'il est scénariste, c'est quand même très compliqué pour lui, il doit apprendre la langue, et donc il y a cet effet d'accueil avec non seulement Lubitsch, mais quelques personnes très importantes comme Salka et Bertolt Viertel, comme Paul Connor, qui était un grand agent. Donc ce sont des noms très importants dans l'histoire, et on va dire que c'est son Europe californienne. Puis, quand il commence à avoir du succès, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il veut avoir des nouvelles de sa famille, et pour l'armée américaine, il est chargé d'une mission de dénazification. Mais lorsqu'il arrive à l'état-major des forces alliées à Londres, la guerre n'est pas tout à fait terminée, et c'est là, à Londres, qu'il va découvrir des bobines de films éparses, et il sera en fait, ce qui est très étonnant, le premier homme à voir les films de la libération des camps. Et donc c'est le moment européen qui commence à ce moment-là, un autre moment en fait européen. Donc il va, comme vous l'avez dit, donc réaliser ce film Les Moulins de la Mort, qui finalement sera réduit à un court-métrage, mais il va travailler sur l'Europe et l'Allemagne, et donc ça va donner ce film très important, La Scandaleuse de Berlin, en 1948, où on voit Berlin détruit au tout début du film, et le film est tourné vraiment dans les ruines berlinoises. Donc il y a cet aspect berlinois d'une part, qui revient dans ces films, non seulement avec ce film, mais avec un film de 1961 qui s'appelle 1, 2, 3, où là, comme par hasard, la grande histoire le retrouve, puisque le mur de Berlin est construit exactement au moment du tournage du film, tout à fait extraordinaire. Et puis il y a donc une Europe plus charmante d'une certaine manière, plus thématique, avec Paris qui est très souvent montré, notamment dans Irma la Douce ou dans Ariane, hein, le Love in the Afternoon avec Audrey Hepburn. Et la toute fin de sa carrière, j'ai appelé ça la trilogie européenne, c'est-à-dire dans les années 70, les trois films merveilleux qui se passent donc en Angleterre. La vie privée de Sherlock Holmes, pour moi un chef-d'œuvre. Avanti, une très belle comédie avec Jack Lemmon. Et son avant-dernier film, mais qui pour moi est son œuvre ultime, Fedora, avec William Holden et Mart Keller, qui a lieu donc notamment à Corfou et puis aussi à Paris.
Merci beaucoup Marc Serrisuelo.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, Julie Deliquet succède à Wajdi Mouawad au Théâtre National de la Colline.
Oui, l'annonce met fin à l'attente. Julie Deliquet, metteuse en scène et actuelle directrice du Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, est nommée pour un mandat de 5 ans. Cette décision intervient juste avant le départ, le 8 mars, de l'artiste libano-canadien Wajdi Mouawad, qui avait alerté le ministère de la Culture il y a un an déjà sur son souhait de retrouver son indépendance d'artiste. Julie Deliquet, habituée des grands plateaux, devient la première femme à diriger ce théâtre de l'Est parisien consacré aux écritures contemporaines et inauguré en 1988. La réussite de sa dernière création, La guerre n'a pas un visage de femme, adaptée de la prix Nobel Svetlana Alexievitch, a évidemment joué en sa faveur dans la décision finale.
Et pour finir, la Biennale de Venise autorise à nouveau la participation de la Russie et crée la polémique.
Écartée depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie fait à nouveau partie des pays invités à l'édition 2026 de la grande manifestation d'art contemporain. L'Ukraine a demandé ce dimanche aux organisateurs, en signe de protestation, de continuer à ne pas autoriser la participation de la Russie, comme cela avait été le cas en 2022 et en 2024. Pour l'instant, lors de cette 61e édition, près de 40 artistes russes devraient participer à l'exposition. l'exposition. Le ministère italien de la Culture a affirmé jeudi que cette décision avait été prise, je cite, en toute indépendance par la Fondation de la Biennale, malgré l'opposition du gouvernement italien.
Merci Sophie Catherine, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain en attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.